à voix nue. Cette semaine, Béatrice Leca rencontre Hélène Moucharzet. Ce soir, les camps d'internement du Loiret, une page d'histoire à écrire.
Hélène Moucharzet, bonsoir. Nous avons été avec vous à Orléans, dans l'enfance de l'après-guerre, puis à Paris, dans votre vie d'enseignante engagée et fidèle aux valeurs qui ont été celles de votre père, Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale du Front populaire, emprisonné par Vichy en 1940 et assassiné par la milice en 1944. Dans les années 1990, vous êtes à Orléans et vous travaillez aux côtés du maire socialiste Jean-Pierre Sueur. Deux événements vont marquer l'année 90. Ils sont éloignés géographiquement, mais ils ne sont pas sans rapport et ils disent quelque chose de l'état de la France de ces années-là. En avril 1990, paraît un article, ou plutôt une enquête d'Éric Conan sur les camps d'internement du Loiret, Pithiviers et Beaune-la-Rolande, intitulé « Enquête sur un crime oublié ». Un mois plus tard, c'est la profanation du cimetière de Carpentras. Le Front national est alors en pleine ascension. À la télévision, Jean-Marie Le Pen déclare que les chambres à gaz sont un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, cinq ans plus tard, en 1995, Jacques Chirac reconnaît la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. Les années 90, elles sont quel changement pour vous ?
Il y a ces événements dont vous venez de parler qui sont un véritable choc. D'abord, cette enquête, en effet, qui révèle ce qui est ce que Serge Klarfeld appelle le paroxysme de la solution finale en France, c'est-à-dire le sort de 16 000 juifs qui ont été internés dans ces deux camps, et en particulier des 4 000 enfants du Veldiv, dont beaucoup de gens pensaient à l'époque que, dans le meilleur des cas, ils connaissaient la rafle du Veldiv et encore. Et on pensait qu'ils avaient été déportés directement vers Auschwitz-Birkenau. Mais l'étape, si je puis dire, terrible des camps de Lorraine était parfaitement inconnue dans la mémoire nationale et dans la mémoire locale. Et puis le choc de Carpentras, pour ma génération, un tel acte d'antisémitisme clair et avoué, c'était impensable. Donc c'est en effet un vrai choc, et qui va être ici, à Orléans et dans la région, un choc encore plus important. En 1989, il y a des élections municipales. Un maire est élu à Orléans, Jean-Pierre Sueur, qui me demande de faire partie de son équipe. Je viens d'être élue à la mairie d'Orléans. Je viens de connaître ces événements qui ont été un vrai choc. Et à Pithiviers, il y a aussi un nouveau maire, Henri Berthier. Donc ce nouveau maire de Pithiviers va m'envoyer une invitation à la commémoration annuelle qui a lieu en souvenir de l'existence de ces camps du Loiret, parce qu'il me connaissait comme fille de Jean Zay. C'était la première fois que je recevais une invitation à ces commémorations, qui se déroulaient depuis la libération, en gros, mais qui étaient beaucoup le fait de Parisiens, puisque l'énorme majorité des Juifs internés dans ces camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande étaient des Parisiens. Moi, je vais à cette commémoration que je découvre. Alors, c'est des commémorations extraordinaires qui durent une journée. C'est-à-dire, on va d'abord dans les deux camps. Il y a de longs discours. Il y a une foule. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Paris en car. Il y a deux ou trois cars qui arrivent de Paris.
C'était où ?
Alors, c'était à l'emplacement des camps, dont il ne reste rien. Parce que ça aussi, c'est hallucinant de voir comment, à la libération, on n'a rien gardé. Beaune-la-Rolande, en 47. On détruit tout et on vend aux enchères depuis le banc jusqu'à la baraque. C'est comme ça qu'on a retrouvé des baraques dans la campagne. Quant à Pithiviers, il y a quelques baraques qui subsistent mais qui sont détruites au début des années 50. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune volonté de garder quoi que ce soit. Ensuite, on va à l'autre camp où on refait des discours. Ensuite, il y a le déjeuner. Et l'après-midi, on va au cimetière de Beaune-la-Rolande où il y a la tombe d'enfants morts et de quelques internés, et la tombe d'une assistante sociale de l'époque, Mademoiselle Roland, qui avait laissé un grand souvenir dans la mémoire des internés, parce que là, elle les avait beaucoup aidés. Donc ça dure une journée.
À ce moment-là, qu'est-ce que vous apprenez ? Qu'est-ce que vous découvrez ?
Je découvre d'abord ces commémorations, je vois les familles des victimes qui viennent, il y a encore des très proches, il y a encore des rescapés des camps. Hein. Et je me souviens en particulier qu'il y avait un rescapé qui s'appelait Monsieur Kafka, figurez-vous, K-A-W-K-A, qui chantait a cappella le chant de Pithiviers, qui est un chant yiddish qui avait été composé dans le camp par des internés, un très beau chant. Et puis, énormément de gens très émus qui viennent regarder. Parce que sur les monuments, il y a quelqu'un de l'association des anciens déportés juifs de France qui inscrit peu à peu. On est encore à l'époque où les familles demandent l'inscription des noms sur la pierre. Et c'était M. Brachère, quelqu'un que j'ai beaucoup aimé aussi, qui prenait soin des pierres tombales, etc., etc., qui rajoutait les noms. Puis arrivé un moment où il n'y avait plus de place sur les plaques. Et surtout, il y avait surtout des gens, des adultes, c'est-à-dire des gens qui ont été arrêtés à la rafle du billet vert, qui sont donc des adultes, hommes étrangers. Tandis que tout ce qui se passe à la deuxième grande rafle, la rafle du Veldiv, il n'y a plus personne pratiquement pour faire inscrire des noms. Il y a des familles entières qui ont disparu. Et donc, on va discuter beaucoup de tout ça, de ces monuments, de cette absence de traces. Même si on voit encore ce que voyait, il y a encore la gare de Pithiviers, la gare de Baudin-Rolland, il y a encore le silo que voyait, il y a encore des traces, mais il n'y a plus de baraques, il n'y a plus rien. Donc, moi, j'ai vraiment, à cette époque-là, le sentiment d'une urgence absolue. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais l'idée que ces milliers d'enfants dont l'histoire est inconnue de la plupart des gens, parce qu'à la limite, depuis les années 70, on connaît mieux le processus de déportation des Juifs de France et de ce qu'on appelle l'extermination, enfin la Shoah, le film de Lanzmann de 85, etc., etc. Mais le détail de ces enfants, le martyre qu'ils ont subi dans ces camps de Pithiviers, Baudin-Rolland, la séparation avec leur mère, très peu de gens connaissent ça. Et c'est une telle horreur de découvrir ces témoignages d'Annette Müller, d'Annette Kracher, de Joseph Weissmann, tous ces gens. Bref, le sentiment d'urgence, il s'impose et il n'est pas compliqué. Il faut faire connaître cette histoire. La faire connaître le plus largement possible parce qu'elle n'a jamais été racontée. Seule Klarfeld, dans le mémorial de la déportation des Juifs de France, qui date des années 70. Il évoque, il publie même une partie du témoignage d'Annette Müller. Et donc, c'est même pas une réflexion, ça s'impose à moi, d'autant plus que je viens d'apprendre par une amie, Eliane Klein, que je connais très bien, qui fait partie de la communauté des Juifs d'Orléans et qui est à l'époque représentante du CRIF. J'apprends qu'un musée vient d'être inauguré à l'est, au nord d'Orléans, sur un lieu de résistance qui s'appelle le musée de la résistance et de la déportation. Alors, il parle de la résistance, il parle de la vie quotidienne, la déportation, il y a une toute petite pièce qui est consacrée au camp d'internement. Et Eliane me dit que, quand elle a fait l'observation qu'il y avait quand même peu de place, étant donné l'importance des événements, elle s'entend dire « les Juifs n'ont pas plus souffert que les autres ». Et donc, tout ça, en quelques mois, fait que la décision est prise. Alors la décision, c'est quoi? C'est faire une exposition, c'est très clair, c'est faire connaître ces événements. Et donc, tout un travail à faire, historique, de recueil de témoignages, si bien qu'on crée une association qui s'appelle Centre d'études et de recherche sur les camps d'internement du Loiret. Et j'insiste sur le mot études, parce que c'est très clair que dans les objectifs, qu'est-ce que c'est que le CERCIL? Qu'est-ce que va être le CERCIL? Un centre de recherche, deux, recueil de témoignages. Donc là, je vais voir Eric Conan qui me donne les adresses de tous les... Et évidemment, de fil en aiguille, on va en connaître beaucoup d'autres.
Ça veut dire que vous allez voir personnellement, les uns après les autres, les gens dont Eric Conan vous a donné les noms?
Je les contacte par téléphone, enfin d'une façon ou d'une autre. Enfin, il faut que je parle aussi du rôle très important de deux personnes pour la création du CERCIL. C'est Henri Boulavco, qui est à l'époque le président de l'Amicale des anciens déportés juifs de France, C'est eux qui ont organisé dès le départ les commémorations chaque année, hein, depuis 1947, je crois. Et donc, qui va nous donner aussi beaucoup de contacts avec des gens dont on va recueillir le témoignage et beaucoup de documents et beaucoup de photographies. Puis le deuxième personnage sans lequel le Cercil n'aurait pas pu voir le jour non plus, c'est évidemment Serge Klarsfeld qui va nous documenter beaucoup en ce qui concerne en particulier l'histoire des enfants. Donc ces deux personnages piliers plus cette volonté farouche de très vite sortir de l'oubli, en particulier l'histoire de ses enfants, font qu'on constitue très vite une association, que j'obtiens très vite le soutien du maire d'Orléans, Jean-Pierre Sueur, malgré l'opposition de certains à l'époque qui me disent « Qu'est-ce que tu vas nous rappeler tout ça ? Pourquoi rappeler tout ça ? C'est terminé, il faut tourner la page. » Ce à quoi je leur réponds. Peut-être qu'il faut tourner la page, je n'en suis pas sûr qu'il faille la tourner, cette page-là. Encore faut-il qu'avant, elle ait été lue, et pour être lue, il faut qu'elle ait été écrite. Et donc, c'est pas facile au début, il faut se bagarrer. J'ai l'appui du maire d'Orléans, sans réserve. De même que, dans la continuité après, il va y avoir un changement de majorité en 2001, et j'aurai aussi l'appui du maire qui n'est pas de la même tendance politique, Serge Grouard. Là, il y a eu consensus là-dessus. Mais toujours est-il que le travail va commencer très fiévreux. J'ai le souvenir d'une époque où je suis totalement obsédée par ça. Et on arrive à fabriquer une exposition qu'on va inaugurer le 15 juin 92, je m'en souviens très bien, sous la présidence de Simone Veil, qui fait un magnifique discours, comme elle savait les faire à l'époque, malheureusement qu'on n'a pas enregistré, qui est un événement. Le journal local titre « Le Loiret retrouve la mémoire des camps ». Il y a des centaines de personnes dans cette mairie d'Orléans, ce qui me réjouit beaucoup, parce que j'avais tenu à ce que l'exposition soit montrée à la mairie d'Orléans, symboliquement, parce que je considère que la mémoire, ce n'est pas la seule affaire des Juifs, c'est l'affaire des collectivités locales qui ont eu partie prenante dans les événements. Donc c'est leur devoir aussi de porter cette mémoire. Donc c'est un véritable événement.
Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette exposition ? C'est une grande exposition ?
Oui, alors c'est des panneaux comme on les fabriquait à l'époque, des grands panneaux, on ferait plus ça maintenant, mais qui racontent l'histoire, alors assez simplifié, parce qu'il faut être pédagogique, donc faut pas. Donc on a résumé l'essentiel. Beaucoup de photographies, de témoignages aussi. On a encore, et on fait tout de suite un catalogue qu'on a encore, mais qui est maintenant caduque, parce que donc l'exposition itinérante a été refaite plusieurs fois. C'est donc une des années où je suis très occupée par cette circulation des expositions, mais aussi par ce qui est prioritaire, c'est les recherches familiales, c'est-à-dire il y a la grande histoire, avec sa grande hache, comme dit l'autre, et puis il y a la micro-histoire, l'histoire de ces témoins qui viennent de plus en plus nombreux, qui viennent ici, alors pas ici, parce qu'on n'a pas encore le musée mémorial, on est dans des bureaux dans un autre quartier d'Orléans que la mairie d'Orléans a mis à disposition, mais ce sont des bureaux. Donc, toute l'action du Cercil, les quelques années qui vont suivre, c'est une action hors les murs, c'est-à-dire on va beaucoup dans les établissements scolaires avec les témoins, avec Annette Muller, avec les autres. Et on accueille les témoins, enfin les rescapés, ou les familles qui nous apportent des documents. Et on va comme ça se constituer un fonds d'archives privé, extraordinaire, parce que parfois c'est des fonds très importants. Il y a quelques jours, une famille est venue ici. La fille de quelqu'un s'appelait Mayer Kranning, qui a été déportée, qui nous a donné un fonds considérable qu'elle a donné au Cercil.
C'est-à-dire un fonds considérable.
Il y a tout l'itinéraire de cet homme, parce que nous, ce qu'on a toujours voulu aussi, c'est non seulement les gens qui ont été déportés, leur histoire ne se limite pas à leur déportation. C'est des gens qui avaient une vie avant, et parfois, quand ils sont rescapés, qui ont une vie après, ou parfois leur vie s'est interrompue. Donc, ce qu'on a toujours voulu faire, c'est redonner une continuité à cette vie, qu'elle ne soit pas limités à la déportation et donc retrouvés dans leur passé, d'où ils venaient quand ils sont arrivés en France, parce qu'il y a beaucoup de juifs polonais réfugiés dans les années 30, ce qui leur est arrivé pendant la guerre, ce qui est arrivé aux enfants, est-ce qu'ils sont revenus, pas revenus, et ensuite les témoignages des enfants, dont beaucoup ont visité leur père quand ils étaient internés à Pithiviers ou à Bonheur-Hollande.
Est-ce que vous, Hélène Moucharzé, vous avez eu le sentiment à ce moment-là un peu de trouver une famille?
Ah oui, enfin... Oui, je me sens une proximité avec ces gens qui viennent, extraordinaire, quoi. Immédiatement, je sais pas très bien comment le dire, mais on a quelque chose en commun. Alors, je vois bien maintenant ce qui est en jeu là. Je me le dis pas toujours, mais d'abord l'intérêt extrême que j'ai à écouter leur témoignage, à le susciter avec d'autres personnes, parce que on va continuer avec le temps, on va constituer une petite équipe. Hein. Donc, il y a cet historien Benoît Verny qui commence à faire des recherches très sérieuses, qui va faire l'inventaire du fonds d'archives des archives départementales du Loiret. C'est quand même pas rien, parce que aux archives ils avaient personne pour le faire. Donc c'est nous, tout petit Cercil, qui allons faire ce fonds d'inventaire et qui sert encore actuellement. Et ensuite, à force d'obstination, on va réussir à trouver les financements pour avoir un poste permanent d'historien attaché au Cercil.
Aujourd'hui, vous nous recevez à l'intérieur d'une ancienne école maternelle qui est le lieu où le Cercil s'est pérennisé. Et quand on regarde par la fenêtre, on voit une photographie et une ancienne baraque.
Oui, alors au début des années 2000, après toute cette action qu'on a engagée, moi je suis de ceux et celles qui pensent que la mémoire de la Shoah n'ira jamais de soi, qu'elle sera toujours une mémoire fragile, et que donc il faut l'inscrire dans la pierre, il faut un lieu pérenne où installer cette histoire et cette mémoire. Et donc je me mets à la recherche d'un lieu. Alors, je passe les détails, ça a été compliqué. Et parfois, j'ai eu besoin du soutien de Serge Klarsfeld, qui a énormément facilité les choses. Bref, j'avais depuis longtemps, un petit peu dans le collimateur, une ancienne petite école maternelle, pas très loin de la mairie, désaffectée depuis 89. Et donc, après avoir vu les différents maires, à la fin du mandat de Jean-Pierre Sueur, et puis surtout au début du mandat du nouveau maire, je leur fais la demande d'un nouveau local. Alors, j'ai diverses propositions pas satisfaisantes. Puis arrive ce lieu que je leur propose. Alors là, on me dit, mais non, c'est pas possible, parce que c'est des locaux municipaux, il y a plein de trucs, il y a le matériel électoral, alors tu sais, ça prend la place, il y a les services techniques de la culture, il y a les jardiniers au fond, et il y a tout ce qui est nécessaire pour les fêtes de Jeanne d'Arc. Donc on me dit, c'est impossible. Et là, je dois dire que le maire a tapé sur la table en disant à ses services, vous me débarrassez de tout ça, vous faites comme vous voulez, mais il attribue donc cette école. Va commencer de longues années. D'abord, où la mairie va faire restaurer le lieu qui était en très mauvais état. Et puis nous, on va travailler pour la scénographie et la muséographie. Ça a été un très long travail, parce que toutes ces années de travail, on avait beaucoup accumulé de documents. Donc ce lieu est inauguré en 2011. Là aussi, c'est un grand moment. Il y a énormément de gens. Et va commencer une nouvelle histoire avec ce nouvel outil magnifique qui nous permet d'amplifier l'action, mais l'action qui est toujours la même, la recherche de documents, l'action pédagogique et la mise à disposition de tous ces documents pour essayer d'étendre au maximum la connaissance, pas seulement la mémoire, mais la connaissance de ces événements, avec l'espoir que la connaissance de ces événements va aider à ne pas les reproduire, à condition qu'on explique bien les processus qui ont amené à de tels événements, qu'on ne se contente pas de rappeler les événements, la rafle du Veldiv, etc., mais qu'on sache comment on en est arrivé là.
Au début de votre mandat municipal, Hélène Moucharzé, vous accolez à votre nom de femme mariée, votre nom de jeune fille. Donc vous devenez Hélène Mouchard-Zay.
Oui, alors ça c'est lié un petit peu à l'action publique.
Est-ce que ça vous a aidé justement dans votre travail pour le CERCIN?
Oui, je pense, oui. Parce que ce nom de Zay disait quelque chose quand même à beaucoup de gens fatalement concernés par cette histoire-là. Puis il y avait aussi cette proximité immédiatement qui est une espèce de... Vous avez employé le mot famille, familiarité, enfin tout ça, c'est de la même racine, mais une sorte de terrain commun qui fait que j'entendais immédiatement ce qu'il disait, quoi, et que tout m'intéressait, même des détails, parce que le recueil de ces témoignages a été extraordinairement important quand même. Donc c'est ce qui est le cœur du CERCIL, et je pense en particulier à un témoignage qui a eu un rôle très important au tout début du CERCIL. Je reçois une lettre. Dans l'enveloppe, il y a une photographie et une lettre très courte. Cette photo, c'est la photo d'une petite fille dont la lettre raconte l'histoire. La lettre qui est signée de son demi-frère. Alors, cette petite fille, c'est ce que raconte la lettre, s'appelait Aline Corinne-Bacher. Son histoire est très courte. Elle est née le 31 août 1939, la veille de la déclaration de guerre, dans une famille de juifs polonais, très modeste. Le papa est un petit tailleur, Abraham, qui se réfugie en France pour fuir les persécutions antisémites en Pologne. Il arrive à gagner sa vie, mais, comme l'ont dit la majorité de ces gens réfugiés, on était très pauvres, nos pères travaillaient très dur, mais on était heureux parce qu'on était à l'abri des persécutions et qu'on allait à l'école. C'est-à-dire le Front populaire, pour ces gens-là, ça leur dit quelque chose. Et certains enfants de l'époque se souviennent avoir été sur le dos de leurs parents aux manifestations du Front populaire. Donc, j'en sais, ça leur dit quelque chose. Et puis, le malheur les rattrape, le choix de la collaboration, les persécutions à la fois lancées par Vichy et par les Allemands. Faut se rappeler que les Juifs de France sont l'objet d'une double persécution, française et allemande. Le papa est arrêté à la rafle du billet vert, interné à Pithiviers. La maman et la petite fille restent à Paris. Je résume. Aux rumeurs qui annoncent la grande rafle du Veldiv, parce qu'il y a eu des rumeurs avant et beaucoup d'hommes se sont cachés. C'est pour ça qu'on a arrêté aussi tellement de femmes et d'enfants. Le papa de la petite Aline, Abraham, donc il est arrêté le 14 mai 41, il est interné à Pithiviers, lui va réussir à s'échapper mois d'avril, mai 42. À ce moment-là, il regagne clandestinement Paris, il réussit à rencontrer sa femme dans un bureau de poste, ça je l'ai appris récemment. Hein. Parce qu'à chaque fois dans l'histoire de cette petite Aline, il y a eu des épisodes où on en a appris davantage. Et donc, ils ont une conversation entre eux, il y a des rumeurs de la grande rafle. Lui dit, il faut quitter Paris, absolument, parce qu'il va y avoir une rafle. Elle lui répond, mais quitter Paris, on va aller où? On ne connaît personne. On n'a pas d'argent pour payer des passeurs, parce qu'il ne fallait pas aller en zone dite libre. Et puis surtout, il lui dit, on va arrêter les hommes. C'est ce qu'on pensait à la rafle du Veldiv, qu'on arrêterait les hommes comme la précédente rafle, mais pas les femmes et les enfants. Or, il se trouve, suite aux événements qu'on connaît, je ne vais pas les rappeler ici, qu'on arrête les femmes et les enfants. 13 152 personnes sont arrêtées, dont plus de 8000 femmes et 4115 enfants. Donc, la petite Aline est prise dans cette rafle. Elle est internée à Beaune-la-Rolande. Elle va connaître le sort très cruel des enfants. Et elle va partir dans un convoi qui part de Beaune-la-Rolande dès le 13 août. Des convois partent pour Drancy. Alors pourquoi on les fait transiter par Drancy, ces enfants? Parce que les autorités allemandes et françaises ne veulent pas que les gens voient qu'on déporte des enfants tout seuls sans leur famille. Donc, ils vont les mélanger à des adultes qu'on vient d'arrêter en zone libre. Et je rappelle toujours que la France est le seul pays où on arrête des Juifs alors qu'il n'y a pas de présence allemande. C'est le cas de la France en zone non occupée. Je préfère ça plutôt que le nom de zone libre. 10 000 Juifs sont arrêtés à ce moment-là, au mois d'août 1942. On les fait remonter à Drancy. et on fait partir des convois d'enfants avec quelques adultes vers Auschwitz-Birkenau. La petite Aline arrive le 31 août 1942, vous vous rappelez sa date de naissance, c'est le jour anniversaire de ses 3 ans. Elle est, comme tous les enfants sans exception, immédiatement gazée. Cette photo, au dos de laquelle il y avait un écrit « À mon papa chéri, le 31 décembre 1941, Aline », m'a immédiatement bouleversée. À la radio, on ne peut pas la montrer, mais cette photo, cette petite Aline a un visage et un regard d'une intensité qui m'a terrassée dès le départ et qui continue à me terrasser. L'effet ne s'est absolument jamais atténué parce qu'elle nous interpelle. Elle a d'abord un visage d'une gravité. Alors évidemment, c'était les photos de l'époque. Elle pose, elle a sa poupée à côté, elle a ses petites boucles. C'est une petite fille bien habillée. C'était la photographie, on allait chez le photographe. C'est pas une photo spontanée du tout. Mais la profondeur de son regard, comme si elle pressentait ce qui allait lui arriver. Bon, il y a une énigme de cette photo qui fait qu'elle est devenue pour nous emblématique des milliers d'enfants victimes de ces événements. Elle n'a rien de plus que les autres, mais elle est toutes les autres à la fois. Et donc, elle est au cœur de notre musée, elle est présente sur tous nos documents, elle est présente dans notre logo du CERCIL, elle est toujours là, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle s'est rappelée périodiquement, enfin, comme si elle se rappelait à notre souvenir, en particulier pour nous poser la question massive. Qu'est-ce que vous faites de tous ces enfants que vous ne savez pas protéger, que nous, collectivement, ne savons pas protéger, y compris des enfants, des victimes des drames actuels, des drames de guerre, des drames où ils sont victimes des guerres des adultes, de la folie des adultes. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Pour moi, cette photo, c'est ça qu'elle nous dit.
Peut-être avec l'histoire qui s'écrit, justice commence-t-elle à être rendue? En tout cas, c'est la fin du déni. Avec cet immense travail qui s'accomplit grâce à la détermination et à l'acharnement de quelques-uns, la page d'histoire s'est écrite. Merci, Hélène Moucharzé.
Merci.
À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Béatrice Leca avec Hélène Moucharzé. À voix nue, réalisation Yaël Mandelbaum, prise de son Valérie Lavalard, attachée de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue déjà disponible en intégralité sur franceculture.fr et l'appli Radio France.